étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close. Qui donc pouvait être ces gosses, cette invasion?
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les sorties de livres et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 15e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio B l'auteur ambarois de naissance et indinois Jean-François Dupont, dont le nouveau roman L'Échappée est paru le 1er mars 2024 aux éditions Asphalt. Jean-François, bonsoir.
Bonsoir Michel.
Alors, vous préférez le mot auteur, écrivain ou romancier lorsqu'on vous présente?
Oh, peu importe. Non, il faut quand même rester modeste. Hein. Justement, je pense à la très belle chanson d'Alain Chanfort. On sort de musique, donc je pense à la très belle chanson d'Alain Chanfort sur son dernier album qui s'appelle Vanité, Vanité. Bon, restons modestes. Peu importe le mot utilisé.
Bien. Alors, avant d'être professeur de français et de cinéma au collège de Pondin, vous étiez déjà attiré par les mots et les histoires?
Oui, attiré, mais les grands auteurs que j'ai découverts, notamment Marcel Proust, pour lequel j'ai une admiration vraiment très importante. Marcel Proust a fait que ça m'a plutôt gêné dans mes désirs d'écriture. J'aurais voulu écrire plus jeune, mais l'œuvre de Marcel Proust est une telle cathédrale que pendant des années, je n'ai rien écrit, je me suis contenté de lire. Et c'est plutôt des auteurs comme Patrick Modiano qui par la suite m'ont permis de me libérer. Et puis aussi la naissance de mes enfants qui m'ont donné envie de laisser des traces, d'abord des traces autobiographiques, et après ces traces autobiographiques, je suis passé à une version plus romanesque de l'écriture.
Alors, vous étiez, je le disais, un professeur de français et de cinéma au collège de Pondin. Le 7e art, à quelle place chez vous?
C'est vraiment, j'ai été nourri de films depuis l'enfance, hein, que ce soit au cinéma, que ce soit à la télévision, même si à l'époque il n'y avait pas toute cette variété de chaînes qui permettent de tout découvrir. J'ai vraiment d'abord aimé des films, des grands classiques, quoi, comme Laurence d'Arabie. Qu'est-ce que je dirais encore qui m'a marqué, la canonnière du Yangtze, voilà, c'était des films comme ça. Et puis après, pareil, je me souviens être allé avec mon père à Lyon au Pathé un jour pour voir Le Clan des Siciliens. J'avais quoi, 11 ans, 12 ans. Ça m'avait aussi marqué. Et puis je me souviens aussi d'un anniversaire, je crois que c'est mes 14 ans, où j'avais demandé à mes parents de m'emmener à Lyon pour aller voir Les Choses de la vie avec Romy Schneider. J'étais déjà amoureux de Romy Schneider.
Alors, en quoi consistaient les cours consacrés au 7e art au collège de Pondin?
Alors, les cours eux-mêmes, donc, c'était de l'analyse de films. C'est-à-dire montrer aux élèves. Alors je donne un exemple très concret. Je prenais par exemple un extrait de Scream, qui est pas forcément destiné à des adolescents, même s'ils en raffolent. Le début de Scream, qui est l'histoire d'une jeune fille qui est toute seule dans une maison. Donc je montre l'extrait du film et dans un premier temps, je montre l'extrait. Je ne montre pas les images. Je fais écouter le son. Et dans un deuxième temps, je coupe le son et je ne montre que les images. pour justement dissocier les choses et montrer aux élèves à quel point, en tant que spectateur, on est manipulé soit par les images, soit par le son. Et là, c'est vraiment un exemple flagrant. Tout est fait pour embarquer le spectateur dans la terreur.
C'est dans le cadre de cours de français ?
De cours de cinéma.
Carrément.
Voilà, d'accord. De cours de cinéma en parallèle avec les cours de français.
Alors, vous avez d'autres passions ? Des voyages ? Et plus particulièrement l'Asie ?
Disons que je suis plus tourné vers l'Asie, oui, mais j'ai quand même des... Alors j'ai des villes fétiches aux États-Unis. Hein. Je connais quand même assez bien New York. Je regrette de pas être allé plus souvent à Los Angeles. J'ai un peu méprisé cette ville. Alors que quand on la sillonne, quand on creuse un peu, quand on se balade en voiture, c'est vraiment du mythe à l'état pur. Donc il y a ça. L'Italie, c'est quand même beaucoup plus près, donc j'y retourne tous les ans. J'adore l'Italie, j'adore Venise, j'adore Rome, voilà. Et puis l'Asie, là je me suis un petit peu centré sur un pays que j'aime vraiment beaucoup, qui est le Vietnam.
Alors vous avez d'autres passions, je le disais, donc les voyages et Tintin. Alors c'est ce dernier qui vous a donné l'envie de voyager ?
Alors, Tintin, on peut pas dire que ce soit une passion, mais ça fait partie des... Alors, oui, c'est effectivement un déclencheur. Tintin et Bob Morane, si ça parle encore à un certain nombre d'auditeurs, ce sont les albums de Tintin, les aventures de Bob Morane qui ont nourri mon imaginaire et qui m'ont donné envie de mes premiers voyages. Je me rappelle la première fois où je suis allé en Jordanie, je pensais à Cockenstock par exemple. Et puis d'autres voyages. Les premiers voyages que j'ai faits ressemblaient un petit peu justement à l'univers tintinesque. La première fois que je suis allé la première et unique fois où je suis allé en Birmanie, puisqu'on peut plus y aller, c'était Tintin, c'était des voitures des années 40, c'était pas de lumière, c'était des véritables aventures avec des vieux bimoteurs qu'on pourrait aussi trouver dans les aventures de Bob Morane.
Alors, vous êtes aussi un passionné de tennis. La petite balle jaune vous poursuit même dans vos romans. C'est un sport inspirant pour l'écriture ?
Inspirant, on ne peut pas dire que ce soit inspirant, mais je trouve toujours le moyen de le caser. J'ai eu des personnages tennisman, je fais des petites allusions aux cours de tennis, parce que c'est vraiment une passion au sens où je suis de très très près, comme certains peuvent suivre le foot à fond. Moi, je peux vous dire les tournois de la semaine, je peux vous dire les qualifications pour Roland-Garros pour la semaine prochaine, où d'ailleurs je vais me rendre. Donc c'est pas inspirant, mais ça fait partie de mes passions. C'est depuis que j'ai 20 ans, j'ai toujours adoré. Je suis un très piètre joueur, mais j'ai toujours aimé voir des matchs à la télé. Ouais. Peut-être même, et pourtant j'ai sillonné aussi de grands cours. Hein. Je suis allé à Flushing Meadows à New York, je suis allé au tournoi de Rome, Monte Carlo, voilà. Ça compte beaucoup.
Alors, vous qui êtes un passionné de cinéma, vous écrivez vos romans comme on écrit un scénario de film ?
Absolument pas. Je vais reprendre la métaphore utilisée par Patrick Modiano, qui dit que quand il commence à écrire, c'est comme conduire une voiture dans le brouillard. Alors, moi, personnellement, c'est un peu ça. Enfin, j'ai quand même une idée de... Par exemple, l'échappée, je savais à peu près la trame, mais je ne suis absolument pas quelqu'un qui va faire un plan avec des chapitres et des choses comme ça. C'est-à-dire que je découvre au fur et à mesure. J'avance comme ça. Alors, je peux écrire 15 lignes un jour. Le lendemain, je peux écrire une page ou deux pages. Ça dépend. Mais c'est aussi très, très agréable, quand on arrive à la fin de sa page, de s'apercevoir qu'on a, que des choses ont surgi, que le roman s'est écrit à son insu, que quand on a commencé la page, on ne savait pas ce qu'il allait y avoir dans cette page. C'est magique.
Alors, votre premier roman, « J'ai empaillé mes amis », est paru en 2004, je me trompe pas ?
Oui.
Alors, avec le titre, le ton est donné, hein, l'humour, l'ironie n'est jamais loin chez vous. C'est une de vos marques de fabrique ?
Marque de fabrique, je sais pas, mais je pense, si on revient quand même à l'échappée, l'échappée, c'est pas un roman qui était destiné à être très drôle, et j'ai tout fait pour y injecter une forme d'ironie, d'humour, qui fasse que le roman ne soit pas accablant, justement. Et injecter cet humour en filigrane, c'est intéressant parce que c'est un clin d'œil au lecteur en même temps.
Alors, votre dernier roman, donc L'Échappée, est paru le 1er mars 2024 aux éditions Asphalt. Pouvez-vous nous en raconter l'histoire sans trop en dire, bien évidemment ?
Ah oui, là, je suis obligé de quand même de cacher un certain nombre de choses.
Ah oui.
Le personnage principal est un universitaire à la retraite qui, on peut dire qu'il a un peu brûlé tous ses vaisseaux. Il est quand même pas dans un état psychologique très favorable. En plus, notre pays est plongé dans un début de guerre civile. Et pour des raisons que je ne peux dévoiler, il va être amené à partir à pied en Suisse, en imaginant que ce narrateur habite dans une petite ville qui serait à peu près à la même distance que Bourg-en-Bresse de la Suisse, en gros. Et lors de ce trajet, il va rencontrer une jeune violoncelliste qui est un peu à la dérive. On comprendra, on en saura un peu plus dans le reste du récit. Et ils vont former un tandem parce qu'elle elle aussi veut aller en Suisse. Et donc commence ce trajet entre un sexagénaire et une jeune femme d'une vingtaine d'années, on va dire. Alors, pas du tout d'ambiguïté, parce que la jeune femme va vite le recadrer, même s'il n'y a pas de début d'idylle ou quoi que ce soit. Ce tandem va finalement s'unir très fortement, parce qu'ils vont être kidnappés par un groupe de très jeunes guérilleros qui sont dans les montagnes, qui s'appelle la section Jura Libre, qui font partie d'une de ces multiples factions qui interviennent dans cette guerre civile. Et le cœur du livre, c'est justement la captivité de nos deux personnages principaux. Comment justement ils réagissent, comment ils essayent de s'aider, comment ils essayent de survivre avec cette bande d'apprentis guérilleros, on va dire, qui sont en plus, surveillés par une sorte de gourou. Alors après, évidemment, je ne peux pas aller plus loin.
Vous étiez dans quel état d'esprit lorsque vous avez écrit L'Échappée ? Parce que ça sent la période du Covid et tout ce qu'il y a autour, non ?
Pas spécialement, non. C'est peut-être mon état d'esprit général qui m'a amené vers le thème et que peu à peu, il y a eu des déclics, il y a eu le thème de la guerre civile en lui-même, c'est toujours quelque chose qui me hante les gens du même pays qui s'affrontent. Et j'avais vu aussi, alors là on revient au cinéma, un film que j'ai vu pendant la période Covid. Un film qui s'appelle Monos, M-O-N-O-S, un film colombien qui raconte justement l'histoire d'une bande de très très jeunes guérilleros, 14-15 ans, perdus au fin fond de la jungle colombienne, qui ont une otage et qui font un peu tout et n'importe quoi et qui finissent par tuer leur chef. Bon, et ça m'a pas mal inspiré. C'est vraiment un film excellent que que je conseille, vraiment des plus beaux films que j'ai vus ces dernières années. Et puis après, ben, les choses, ben, on tire sur le fil, et puis il y a des éléments qui s'ajoutent, il y a des éléments cocasses, bon, je peux pas non plus trop en dire, mais c'est un peu comme ça. Le roman, c'est un peu créé comme ça, par petites touches. Et comme je vous ai dit, parfois on est surpris. On arrête d'écrire, à 16 heures, et puis on reprend à 17 heures, et tac, il y a un truc qui vient. Et puis ça vous éclaire le personnage, ou ça vous éclaire une situation différemment. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, je le dis, c'est magique.
Le personnage principal de L'Échappée s'appelle François. Hein, universitaire à la retraite, qui habite pas trop loin de la frontière suisse et qui est fan de cinéma et de tennis. Un personnage qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé Jean-François ? C'était trop long à écrire ?
Oh, il faut quand même prendre un peu de distance par rapport à ces personnages. Oh, ça, c'est pas la première fois que j'utilise ce prénom, mais évidemment, c'est un peu comme un double. Après, si on regarde dans les détails, il y a quand même, j'espère, des différences par rapport à moi-même.
Ouais, parce que François, donc personnage principal, a perdu son épouse, ses enfants n'ont plus besoin de lui, il s'est évadé de la prison dans laquelle il était incarcéré, et puis il cherche à fuir la vie et le monde qu'il mène. En cela, il vous ressemble également ?
Oh bah écoutez, si je ressemblais au personnage, ah non, je vais encore en dire trop, mais je ne suis jamais passé par la case prison. Déjà, mes enfants ne sont pas trop loin, même si ma fille est en Amérique du Sud en ce moment, mais elle va rentrer, mon fils est aussi proche. Donc non, il y a quand même des choses différentes. C'est peut-être des peurs de perdre finalement son bonheur. Parce que le bonheur, c'est ça, c'est de perdre quelque chose ou de perdre des gens.
Alors, dans L'Échappée, le personnage principal donc est universitaire. Dans Villa Wexler, il est question d'un professeur de français. Dans Sparring Partner, il est question d'un François écrivain en mal d'aspiration et d'un ancien champion de tennis. Dans tous vos romans, on retrouve une partie de vous-même. Et si le personnage récurrent dans vos romans, c'était vous ?
Oui, ça, on peut dire les choses comme ça. C'est des morceaux de moi. C'est moi en pièces détachées ou moi éclairé différemment. Sans aucune prétention, je pense qu'une œuvre, entre guillemets, elle se construit quand même de manière cohérente. Et j'ai tendance un peu à me méfier des artistes, notamment des cinéastes qui peuvent passer d'un film à l'autre, des films qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, des personnages qui n'ont aucun rapport. Pareil pour les écrivains. C'est pour ça que je reviens à Modiano. Modiano, on dit qu'il écrit le même livre. Mais chaque fois, il y a une petite lumière différente. Mais je ne me compare pas à Modiano, bien sûr. Je ne me permettrai pas.
Alors, François fait équipe avec Constance, hein, vous le disiez, une jeune violoncelliste qui a l'air aussi perdue que lui. Un rapport s'établit entre eux. Il y a un peu plus que de l'amitié du côté de enfin, on sent qu'il y a un peu plus que de l'amitié du côté de François, comme s'il avait envie de revivre une dernière fois ses jeunes années avec tout ce qui va avec.
Oui, en même temps, il n'est pas dupe. C'est un miroir, finalement, cette jeune femme. Ça le renvoie à son début de vieillesse. Il sait très bien qu'il n'y a pas une idylle amoureuse qui va naître comme ça. C'est aussi une espèce de fascination pour la jeunesse. Parce que des jeunes, j'en ai vu défiler toute ma vie. Et c'est d'ailleurs un peu la particularité du métier de prof, c'est que la clientèle a toujours le même âge. Et c'est un miroir permanent. Ça peut être parfois assez éprouvant, finalement. Pas parce que les élèves sont pénibles, mais parce que finalement, ils sont le miroir de vous-même. C'est comme s'ils vous disaient, mais monsieur, vous avez un certain âge déjà.
Alors François et Constance sont enlevés par une bande de jeunes adolescents armés, plus perdus que résistants, et qui se sont appelés donc le Jura Libre. Tout le monde semble perdu dans ce roman. Ils ont l'espoir de quoi ? De vivre, de s'en sortir, de libérer quoi ?
Mais ils savent pas trop, c'est des jeunes qui sont vraiment à la dérive, qui ont été un petit peu endoctrinés et qui n'ont aucune référence précise, justement, référence culturelle. À un moment donné, il y a un des garçons qui dit « Moi, j'ai jamais pu regarder un film en entier. » Ça en dit long. Et c'était aussi pour montrer à quel point il y a un décalage entre cet universitaire qui a une certaine culture à la fois littéraire, cinématographique, et ces adolescents qui n'ont rien appris, qui sont totalement hors culture. Et c'était ça aussi qui m'intéressait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de référence commune, il n'y a pas de référence culturelle commune. Quand ils commencent à comprendre qu'il a été professeur de cinéma, ils aimeraient qu'il raconte des films, alors que non, c'est pas possible. C'est ce décalage que je trouvais intéressant aussi.
Alors, L'échappée est une fiction assez pessimiste d'un futur. Il pourrait devenir réalité. Il en faudrait peu, selon vous ?
Bah écoutez, les émeutes qui ont eu lieu à la suite de la mort du jeune Naël sont quand même assez inquiétantes. Et ce qui est en train de se dérouler en Nouvelle-Calédonie aussi, je souhaite qu'il n'y ait jamais de guerre civile dans notre pays, mais il y a des petites guerres civiles tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a des frictions, il y a des tensions, pas seulement dans les quartiers, dans les rapports entre les gens, entre des gens d'une certaine origine, c'est pas négatif, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis quand je dis d'une certaine origine, qui font que la guerre civile, elle est souterraine. Mais qu'elle reste souterraine, c'est tout ce qu'on peut espérer. Et que les choses s'améliorent, évidemment.
Dans votre roman, il y a un seul personnage féminin, c'est Constance.
Oui.
Il n'y avait pas de place pour une autre héroïne, pour une résistance du Jura Libre ?
Au départ, j'avais ajouté un autre personnage féminin dans le groupe. Et j'ai eu besoin d'épurer. Et comme à cet âge-là, c'est-à-dire vers 15-16 ans, les filles sont quand même plus matures, on va dire, que les garçons, j'ai préféré conserver un groupe de garçons qui sont un petit peu pataux à cet âge-là, 15-16 ans. Si vous comparez une fille de 3e et un garçon de 3e... C'est quand même, c'est pas la même chose. Après, bon, ça se rééquilibre, mais ça met quand même un certain temps.
Alors, Constance est violoncelliste. Alors, pour fuir un pays en guerre avec son instrument et elle, avec elle, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Hein, pourquoi un tel instrument et pourquoi un violoncelle ?
Parce que je trouve que c'est un instrument magnifique et puis que ça je trouve, on dit que c'est l'instrument qui se rapproche le plus au niveau son de la voix humaine. J'adore le violoncelle, mais je ne connaissais absolument rien au violoncelle, donc j'ai regardé un certain nombre de vidéos, je me suis renseigné, j'avais une copine écrivaine ou autrice, je sais pas comment dire, qui m'a bien briefé là-dessus, donc à partir de ça, j'ai essayé de la rendre crédible. Mais j'aime beaucoup cet instrument et surtout la pause qu'est obligé de prendre la violoncelliste ou le violoncelliste, mais bon, évidemment, la violoncelliste ici, qui est une pause quand même assez, que je trouve assez érotique. Pas parce que c'est la stature, le port de tête que je trouve très beau. Et l'ensemble avec le violoncelle, je trouve que c'est assez, assez sensuel. Voilà.
Dans votre dernier roman, L'échappée, vous utilisez le « je ».
Oui. Ouais. Bah, le prochain, ce sera le Hill. Mais si vous voulez, c'est spontané. Après, je ne bouge plus. Mais ça sort comme ça. Soit c'est je, soit c'est il. Mais je ne peux pas expliquer pourquoi. ça, je le comprends un petit peu mieux après. Peut-être que ça permet de provoquer une certaine distance ou au contraire de la réduire. Mais c'est spontané.
Alors, vous avez débuté la promotion de votre dernier roman avec les inévitables salons du livre et les séances dédicaces dans les librairies. Depuis le temps, vous aimez toujours autant aller à la rencontre de votre public, même si c'est lui qui vient à vous ?
Oui, c'est toujours intéressant, justement, de discuter avec des gens. Quand des gens ont lu un ou deux autres livres de vous, qui connaissent un petit peu votre univers, c'est encore plus enrichissant. Mais il y a toujours des dialogues qui sont fructueux, qui motivent pour se rendre dans un certain nombre de lieux et discuter avec les lecteurs qui sont parfois très timides, justement, comme si la table qui séparait l'auteur du lecteur était infinie, que c'était presque un océan. Et il faut presque provoquer le lecteur pour que le dialogue débute. C'est amusant, c'est un petit peu étrange.
C'est forcément quelque chose que vous appréciez, ce rôle de commercial. Vous aimez vous vendre ?
Ah non, 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 je ne vais pas pincer le nez avec le mot commercial, mais je pourrais très bien me contenter d'écrire et puis discuter de temps en temps avec les gens. Et évidemment, c'est quand même bien d'avoir des retours aussi par la presse, c'est gratifiant. Mais je me vois mal faire le battleur toutes les semaines de librairie en centre commercial. Non, c'est pas le but. C'est quand même d'écrire. C'est le plus important.
Alors ça fait plus de 20 ans que vous écrivez. 20 ans. Oui, vous avez 20 ans cette année.
Oui, oui. Disons que j'ai commencé avant, comme je l'ai dit au tout début, là, quand on parlait de Marcel Proust. Là,
c'est pas ça, vous publiez alors.
Voilà, c'est ça, oui.
Voilà.
Parce que, chose importante, donc je suis né en Berlieu, j'habite en Berlieu, et en Berlieu, peu de gens le savent, c'est la capitale de l'autobiographie. C'est-à-dire que n'importe quel Français peut venir déposer son journal, ses cahiers intimes, son courrier, toutes sortes de choses comme ça sont conservées en Berlieu. Et donc c'est un peu comme ça que c'est pour revenir à moi, c'est un peu comme ça que ça a commencé parce que j'ai commencé à écrire sur mon enfance pour laisser des traces, comme je le disais tout à l'heure à mes enfants, et puis j'ai écrit un certain nombre de récits de voyage aussi. Et peu à peu, j'en suis venu au roman, parce que finalement, la fiction, c'est quand même quelque chose qui compte énormément dans ma vie. C'est une sorte d'ouverture, d'évasion qui m'est nécessaire quotidiennement. J'ai un petit peu de mal avec la réalité parfois.
Donc ça fait 20 ans, je disais, que vous publiez. Oui. C'est plus facile pour convaincre les libraires et salons de vous accueillir.
Ah oui, bien sûr.
On vous connaît.
Voilà, c'est
on
ça.
On vous reconnaît.
Voilà, c'est parce que... C'est-à-dire que les libraires... On peut les comprendre, c'est-à-dire que tous les jours, il y a des gens qui viennent les voir et qui demandent à faire une dédicace. Et comme maintenant, finalement, il y a plein de gens qui s'auto-éditent sur Internet, qui font imprimer leurs textes à partir d'Internet, ça multiplie le nombre d'auto-éditions. Et tous ces gens, que je respecte tout à fait, la première chose qu'ils font, ils ont envie d'aller dédicacer, parce que c'est dédicacer un livre, c'est justement symbolique pour tout le monde. C'est l'impression d'être devenu un écrivain.
Alors, dans vos romans, vous n'avez pas de personnage récurrent, sinon vous-même, de manière déguisée. Vous auriez envie d'écrire une série avec un personnage qui ne vous ressemblerait pas et dont on suivrait les aventures?
Bon, ça, j'y ai pas vraiment pensé. L'univers de la série m'intéresse beaucoup. Je verrais plutôt ça si c'était destiné à être en visuel, c'est-à-dire si c'était une série télévisée. Là, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, et que les collaborations qui sont faites dans les séries où il y a au moins 5 ou 6 écrivains qui travaillent sur une série, ça doit être vraiment stimulant. Personnellement, écrire une série sur un personnage, ça me viendrait pas à l'esprit. Non, j'ai encore de la matière. Pour l'instant, et puis de toute façon, je me vois mal faire quelque chose comme ça qui serait totalement artificiel. Je me vois pas écrire autre chose que ce qui sort de moi-même, si on peut dire.
Alors, j'imagine que vous êtes en train d'écrire un nouveau roman. Sans indiscrétion, que racontera-t-il et où vous nous emmènerez-vous, si on peut le savoir?
Mais cher Michel, vous êtes très indiscret.
Oui, je sais.
Et je n'ai pas envie d'en parler, parce que c'est compliqué de commencer à dérouler les premiers fils d'un roman qui n'est pas terminé, qui sera peut-être modifié sur certains points, qui sera peut-être jamais édité. Je préfère rester encore discret. Je suis désolé.
Bien. À tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicaces. Il est l'heure de passer à la rubrique 4e de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle. Là sur le quai, épaule contre épaule. Sur les 4e de couverture, nous cherchons la même aventure. Sur les 4e de couverture.
4e de couverture, ce sont nos coups de cœur, les sorties et les dates des prochaines séances dédicaces. Jean-François, quel est votre dernier coup de cœur littéraire?
Dernier coup de cœur littéraire. Mmh. Alors là, vous me prenez par surprise. Un roman qui s'appelle Oslo de mémoire. Oslo de mémoire, d'un auteur français qui s'appelle Didier Blonde. Comme une blonde, c'est un auteur extrêmement modianesque, et je ne voudrais pas entrer dans les détails. C'est l'histoire d'un auteur aussi qui va replonger dans une histoire qu'il a eue avec une jeune femme à Oslo. Il va y avoir un déclencheur de cette plongée dans le passé. Et j'ai vraiment trouvé ce roman extrêmement touchant.
Alors, côté sortie, notons le dernier roman de Sébastien Bouchery, Draugen, aux éditions IFS. Le livre de Daphné Gastaldi et Mathieu Péris, Ce que la privatisation des crèches fait aux enfants, aux éditions du Seuil. On apprend de bien belle. Le dernier roman d'Alain Beaulieu, Le Refuge, aux éditions Léna Lévy. Alain Beaulieu qui est venu notre rencontre à Pérona il n'y a pas longtemps. Le nouveau roman de Jean-Noël Blanc, La Surface de Vérité, aux éditions du Caïman. Il sera un petit peu question de football, mais pas que. Et le dernier polar de Philippe Paternoli, La Mort Imaginable, toujours aux éditions du Caïman. Pour terminer l'émission, les dates de séance dédicace, eh bien, on va les annoncer tous les deux.
D'accord.
C'est à vous. Je vais vous laisser commencer les séances dédicaces le samedi 25 mai 2024.
Alors, au Centre culturel Les Subs de Lyon, festival littéraire live avec Elitsa Georgieva de 15h30 à 18h et Victor Malzac à partir de 18h.
À l'école Anne-Franck à Jonas, dans le Rhône, la fête du livre avec Jacques Maurice de 9h30 à 19h.
C'est à moi, oui. Oui. Donc, à la librairie Montbarbon, donc samedi 25 mai, Jean-François Dupont, donc himself, en chair et en os, de 15h à 18h.
À la médiathèque Vaillant à Bourg-en-Bresse, rencontre avec Mathilde Duchosal à 10h30.
Au centre Cultura Bourg-en-Bresse.
Au Cultura, ouais, centre, oui, c'est un centre aussi, si on veut. Oui. C'est au Cultura.
Ouais. Oui, Victoria Vermeil, de 10h à 18h.
Le dimanche 26 mai 2024, au centre culturel Les Sobes à Lyon, le festival littéraire live avec Victor Malziac.
Le jeudi 30 mai, à la librairie Passage à Lyon, Bartabas, à 19h.
Et le jeudi 6 juin 2024, à la librairie Montbarbon, à Bourg-en-Bresse, Stéphane Carlier, de 18h à 20h. Jean-François, d'autres séances de dédicaces à annoncer pour le moment?
Pour l'instant, non. Après, ça va reporter après les vacances. J'ai quelques salons littéraires, mais j'ai pas les dates en tête. Et oui, ça sera après les vacances, de toute façon.
Vous verrez-t-on à Attignat, par exemple?
J'ai pas été contacté pour Attignat.
Vous n'êtes pas inscrit. Voilà.
Voilà.
Voilà. Eh ben, Jean-François Romangar, ben c'est terminé pour aujourd'hui. Jean-François Dupont, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Romangar.
C'est moi qui vous remercie.
Rappelons que votre nouveau roman, L'Échappée, est paru le 1er mars 2024 aux éditions Asphalt. On peut se procurer où, sans oublier vos précédents romans?
Partout. Et j'en profite pour préciser que le précédent, qui s'appelait Villa Wexler, vient de sortir en format poche. Et donc, il sera aussi disponible chez Montbarbon, mais les deux sont disponibles n'importe où, dans n'importe quelle librairie. Il est possible qu'il ne soit pas forcément en rayon, mais en tout cas, il est commandable partout.
On peut suivre votre actualité sur les réseaux sociaux?
Oui. Ouais. Oui, bien sûr. Facebook ou Instagram.
Voilà. Le prochain invité de Romangar, le jeudi 6 juin 2024 à 18h30, sera le romancier rhône-alpin Gérard Sarian. Il a sorti le 14 mars 2024 son troisième roman, L'ombre du prédateur, aux éditions Tornada. Un adolescent est découvert crucifié sur une plateforme au milieu du lac de Lambeck. La même nuit, la sœur de la victime disparaît. A-t-elle été enlevée par l'assassin de son frère ? La capitaine de police Agnès Demar, accompagnée par Jade, une célèbre influenceuse lilloise, mène l'enquête. Jean-François, bonne chance pour la suite de vos aventures de romancier.
Je vous remercie.
Bon voyage, bon salon, bonne séance de dédicace.
Merci pour tout, merci pour votre accueil.
Et à bientôt sur Radio B.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Avec moi dans la chambre close, qui donc pouvait être ces gosses, cette invasion.